Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello, je suis Léa.
Et moi Mathilde.
On est ici pour vous parler de santé mentale via notre podcast Salut ça va by Take Care.
Je suis psychologue clinicienne.
Et moi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux.
On revient dans cette saison 2 pour vous poser la question comment ça va
et accueillir à notre micro vos parcours de vie. Bon épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Salut ça va. Je suis avec Mathilde à mes côtés.
Et bonjour.
Nous sommes actuellement assis sur un canapé à Montpellier, canapé très bancal.
Franchement, je ne suis pas sûre de rester sur ce canapé tout le long de l'épisode.
On va finir par terre, mais vous, ce qui est bien, c'est que finalement, vous n'avez que le son. Et c'est ça qui est sympa dans le podcast, vous n'avez pas les backstage.
Il y a vraiment certains épisodes qu'on a enregistrés dans des conditions déplorables. Ouais.
On a quand même commencé dans un dressing, hein. il faut
s'en souvenir.
Et aujourd'hui, on est dans une très belle chambre d'hôtel et en plus, on reçoit Julie. Merci beaucoup d'être à notre micro. Je sais que ça faisait un petit moment qu'on se tournait autour, qu'on devait se trouver une petite date et voilà, c'est chose faite, la vie fait bien les choses.
Ouais, c'est super, j'espère qu'on est là.
Bah écoute, on est très contente de te recevoir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, nous raconter un petit peu de... Voilà, ta vie te présenter en tout cas à ceux qui nous écoutent.
Oui, avec plaisir. Bah, je suis Julie du coup, j'ai 23 ans, je viens de les avoir il n'y a pas longtemps. Je suis étudiante, encore maintenant, je suis étudiante en musicologie et en art du spectacle. Tout un peu dans l'artistique, ça vient des parents, ça vient des grands-parents, voilà, c'est la lignée.
Une famille d'artistes.
Ouais, c'est ça. La vie était plutôt normale jusqu'à il y a un an et demi où j'ai eu la maladie qui arrivait dans ma vie. Et du coup, depuis, ça suit son cours, j'essaye de faire ce que je peux. Et aujourd'hui, je voulais venir discuter un peu de comment... on gère la maladie et le handicap avec ses proches et comment tout ça, ça évolue du jour au lendemain. Mmh. Je trouvais ça important de pouvoir venir discuter du sujet en tant que personne concernée, disons.
Et c'est pour ça que tu es là.
Et oui, super.
Comment toi, tu as appris cette nouvelle, comment tu l'as vécu, comment ça s'est passé, puisque tout ce que je comprends, c'est assez récent. Comment ça s'est passé?
Du jour au lendemain, mon genou droit a triplé de volume. Mes yeux sont devenus tout rouges, etc. On n'a pas trop compris ce qui se passait. Et on a cru que je faisais une septicémie. Donc j'ai été à l'hôpital, j'ai été hospitalisée 15 jours sans trouver la cause. J'ai été re-hospitalisée plusieurs fois. Puis finalement, on a fini par trouver dans mon sang une polyarthrite rhumatoïde sévère. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une maladie dégénérative des articulations, en fait, qui sera là toute ma vie et qui est très handicapante. Et donc tout de suite, on m'a mis sous chimiothérapie pour essayer d'enrayer ça. Je ne vais pas vous faire deux photos. La chimio, c'est vraiment très compliqué à vivre. On perd ses cheveux, mais au-delà de ça, on vomit beaucoup, on a beaucoup de malaise, etc. Mmh. Et quand on se prend un diagnostic aussi important, plus l'enchaînement avec un traitement très lourd, forcément, c'est assez compliqué à gérer, et pour nous, et pour mes parents, par exemple, ou mes frères et sœurs, parce qu'on change de personnalité et de vie d'un seul coup, en fait, quasiment.
Ouais.
Donc, et voilà. Et ensuite, derrière, on a changé de traitement. La maladie a continué à se propager un peu partout parce que le traitement n'était pas suffisant. C'est qu'après, en fait, qu'on s'est aperçu que ma polyarthrite était sévère et non pas une polyarthrite normale, comme tous les traitements pouvaient gérer facilement. Donc, voilà. Et puis, en mai dernier, il y a un an, j'ai été diagnostiquée d'une fibromyalgie sévère en plus, donc qui est une autre maladie.
Qui cause des grosses douleurs.
Voilà, c'est ça qui est assez compliqué.
C'est quoi tes symptômes au quotidien?
De la fibromyalgie, par exemple?
Oui, en général.
J'ai les articulations qui gonflent et qui s'enraidissent. Donc, je peux être incapable de marcher, par exemple, ou de tenir des choses, ou de porter des choses. Et évidemment, ça joue énormément sur la dépendance, forcément. Et la fibromyalgie, ça attaque un peu plein de choses. Ça peut atteindre le ventre, ça peut atteindre les douleurs musculaires ou nerveuses. Donc, c'est pas évident de trouver qui est responsable de quoi. Ouais. Mais ouais, le quotidien est particulier.
Oui, tu as à gérer de la douleur quand même.
Ah oui, tous les jours. Ouais. Depuis le diagnostic, enfin en tout cas depuis l'apparition de la maladie, j'ai pas fait une journée ou une nuit sans douleur.
Est-ce qu'ils continuent à chercher la cause ou pas du tout?
Non. En fait, la polyarthrite... souvent, c'est diagnostiqué comme étant une maladie génétique.
Ce que j'allais dire, il y a la piste génétique qui doit jouer.
Mais on n'a pas trouvé le coupable dans la famille, donc j'en sais pas qui est porteur de la polyarthrite. Parce qu'en fait, la mienne s'est déclarée dans le sang seulement après avoir enclenché une crise. Donc ouais. Ça se trouve, elle dort chez quelqu'un dans ma famille, mais on ne sait pas trop qui, en fait, pour l'instant.
Et toi, par rapport à ça, comment tu le vis ? Est-ce que tu as un risque ? C'est la cause, c'est quelque chose qui a pu te préoccuper ? Ou pas forcément.
Oui, ça m'a préoccupée. Ouais. Forcément, parce que... En fait, c'est surtout par rapport aux proches. Là, c'est là qu'ils interviennent. Parce que quand vous voyez quelqu'un de malade et quand, du coup, ça entraîne de la souffrance pour vous, et ben forcément, vous voulez trouver un responsable. Et c'est la personne qui loge la maladie qui est responsable de ça, souvent. Parce qu'on ne trouve pas d'autres... On a envie de trouver quelqu'un sur qui... Bon, voilà. Et du coup, moi-même, j'ai dû aussi prendre du temps et vraiment faire un travail thérapeutique pour me déresponsabiliser. De la maladie, parce que forcément c'était lié à cette responsabilité-là.
Oui, tu te sentais coupable. Et puis j'imagine que quand on a un diagnostic aussi lourd que le tien, hein, qui arrive du jour au lendemain, on a besoin de... Enfin, on est un peu dans une quête de sens de ce qui nous arrive, de comprendre un peu pourquoi ça m'arrive à moi. De toute façon, la compréhension, c'est... Le besoin de comprendre, il est souvent essentiel. Enfin, en tout cas, ça, il peut être une vraie préoccupation. Et j'imagine que dans ton cas, d'autant plus.
Oui, ça l'a été. Surtout que j'ai démarré par quasiment 2 mois d'errance de diagnostic. Et les médecins, quand ils ne savent pas, souvent, ils mettent sur la cause psychologique. Donc ah là, elle est justifiée. Voilà, il y a eu toute une étape où il fallait que moi-même, je me convainque que je n'étais pas folle ou que j'étais pas absolument psychosomatique, etc.
Tu avais quand même un genou qui avait doublé de volume et tu avais les yeux tout rouges, c'est
ouais,
ça ?
Ouais, c'est ça. Et la maladie s'est développée tout de suite pendant la première hospitalisation, sur la deuxième cheville, sur la mâchoire. J'avais la mâchoire complètement bloquée. Et ils croyaient que c'était psychologique, que peut-être j'avais vécu un choc, donc j'arrêtais pas de leur dire que non, que ça allait bien.
C'est fou que la prise en compte de la santé mentale, elle a lieu quand ça arrange quand même.
Ouais. C'est un peu l'idée, mais bon, parce que bon, je veux bien que le corps, forcément, la santé physique est influencée par la santé mentale. Mais bon, là, vu les symptômes quand même que tu décris, faut pas déconner quoi.
Non, mais et même si c'est le cas, enfin, je veux dire, à partir du moment où il y a quelque chose qui se passe au niveau du corps.
Et oui.
Il y a, enfin, tu vois ce que je veux dire.
On devrait le prendre en compte. C'est ça.
Et du coup, bah, tu parles de ton entourage. Comment ça a été accueilli justement ces diagnostics?
Ça a été assez violent. On sait que d'un seul coup, on se retrouve avec une maladie à vie, une maladie dégénérative, quelque chose de sévère, donc qui est quand même hyper important dans le quotidien. Et puis moi, en fait, c'est surtout la dégradation physique qu'ils ont vue. Je pense qu'il les a choqués bien plus que le diagnostic, parce qu'on s'attend... C'est un peu l'inconnu aussi, un diagnostic. Ok, j'ai ça, merci, j'en ai jamais entendu parler avant, on démarre un traitement, je ne sais pas ce que c'est. C'est un peu ça, ce qui se passe. Et moi, c'est vraiment la dégradation physique qui a joué au niveau de la violence, je pense, et du traumatisme de mes parents par rapport à la maladie. Parce que je me suis retrouvée à un moment donné, on avait fait des aménagements malgré ça. Par exemple, pour manger, j'avais une cuillère en plastique pour que ce soit le plus léger possible à prendre. Mais à un moment donné, c'était vraiment trop lourd pour moi. Ma main n'arrivait plus du tout à même prendre une petite bouchée, etc. Ouais. Donc je me suis retrouvée comme un enfant...
Dépendant.
Complètement dépendant. Pour marcher, pour manger, pour me déshabiller, etc. Et bah, j'avais à peine 21, 22 ans. Forcément, pour mes parents aussi, c'est ultra choquant. Surtout, moi, je suis très indépendante. Normalement, je fais plein de trucs. Je suis l'aînée, donc forcément, j'ai un côté bien plus autonome, tout ça, que mes frères et sœurs, parce que la position le veut. Mmh. Et là, je me retrouve vraiment complètement dépendante au maximum, presque.
Est-ce que tes parents ont eu un entretien avec un médecin ou avec le corps médical qui leur a expliqué, qui a accompagné cette annonce ?
Pas vraiment. Il a fallu qu'ils le demandent. Moi, on me l'a annoncé en 5 minutes chrono avec 10 médecins dans la pièce. Et en fait, j'ai été choquée, donc j'ai beaucoup pleuré, donc j'étais bien pas sûr. Vraiment dans l'écoute de ce qu'il me disait aussi. Elle a demandé un entretien avec mon rhumatologue et ils nous ont commencé à nous expliquer un peu ce que c'était les traitements, etc. Mais ils nous ont même pas dit que c'était de la chimiothérapie. Ils nous l'ont pas dit. Donc on l'a découvert parce que je perdais des poignées de cheveux et que je suis allée regarder ce qu'était mon médicament. Je m'étais même pas occupée de vraiment ce que c'était. C'était des piqûres. Et c'est là que j'ai vu que c'était de la chimiothérapie.
Mais le mot chimiothérapie n'avait jamais été prononcé ?
Non, jamais. Et du coup, enfin, surtout moi, je sais que ça m'a vraiment choquée parce que je me suis dit, c'est pas possible qu'on... Je pense qu'ils voulaient pas nous choquer aussi de dire, ok, vous avez un énorme diagnostic, plus vous partez sur de la chimio, mais de le découvrir comme ça, mais juste parce que je regarde... Peur,
mais en même temps, c'est mettre un tabou sur... Enfin... Ouais. Mettre un secret vers une espèce, voilà, c'est...
Non, mais t'es médecin, je veux dire, c'est la loi, en fait. Hein, la loi du patient libre et éclairé, c'est un principe même du fondement de ton statut de médecin. Tu peux pas être dans tu ne peux pas cacher ou être dans le secret d'eux. Et puis j'imagine que pour toi, en fait, du coup, tu t'es retrouvée face à toi-même, démunie, à essayer de comprendre ce qui se passe.
C'est ça. Ouais, c'est vraiment... j'avais une poignée de cheveux dans la main et dans l'autre, le médicament avec écrit chimiothérapie. C'est là que j'ai découvert le truc. Mmh. Donc forcément, on a tous été choqués de ça, parce qu'en fait, c'est là aussi qu'on s'aperçoit à quel point c'est sévère, parce que forcément, chimiothérapie, c'est lié au cancer. Mmh. Donc nous, ça nous a tout de suite cloué... ça nous a serré la gorge, etc. On s'est demandé vraiment à quel point c'était sévère, en fait.
Ouais, ça a dû être un moment de choc. Hein. Et on le dit souvent dans l'annonce même de maladie, ou même dans le cas de traumatisme, etc. Le fait d'être figé, d'être choqué, de se dire après coup, ah mais pourquoi j'ai pas demandé ça, mais pourquoi j'en ai pas parlé, etc. Mm-hmm. En fait, c'est parce que tu frises, quoi. Le cerveau,
il sidère, en fait. Mm. C'est de la sidération que... Ouais. Mm. T'es en sidération quand on t'annonce ce genre de choses, parce que c'est choquant, mais tu le dis, hein, de toute façon, le terme choqué revient... revient beaucoup dans ton discours. Donc, tes parents, est-ce qu'ils t'ont montré ce qu'ils ressentaient, ou comment ils ont géré ça du coup de leur côté? Comment ça s'est passé?
Tout a été très édulcoré pour moi jusqu'au moment où ça allait un peu mieux, en fait. Ils ont coupé complètement les émotions avec moi, par peur. Je pense que j'absorbe trop, parce que déjà de base, moi je suis hypersensible et tout ça, donc c'est déjà pas évident, je pleure beaucoup, j'ai besoin de... Voilà, je sens beaucoup les émotions des autres. Mes parents ont tout édulcoré, donc ils ne me disputaient plus du tout, par exemple, ou des choses comme ça. Et au niveau de la réaction à la maladie, ils étaient démunis, et en même temps, ils voulaient vraiment pas me montrer leur inquiétude. Ils m'ont dit « ça va le faire » et tout. Et en fait, je voyais dans leurs yeux, ils étaient paniqués, mais leur discours n'était pas du tout le même.
Ouais.
Parce qu'ils avaient vraiment cette volonté d'essayer de me rassurer, même si même eux, ils ne connaissaient pas
tout. Souvent, on croit en tant que parent qu'avec les mots, on peut dire quelque chose complètement opposé de ce qu'on pense. Et même chez des tout petits enfants, en fait, ça se ressent, parce que les enfants sont des éponges, et qu'entre êtres humains... En plus, quand il y a ce lien particulier, ça fait une dissonance complète ce que le corps, le langage même non-verbal, etc., ressent, montre, et ce qui se passe réellement.
Les bébés sont les personnes, enfin les bébés notamment, et les enfants plus tard, sont les personnes qui connaissent le mieux le faciès de leurs parents. Parfois, tes mots veulent dire quelque chose, mais si ton faciès il suit pas, et tu l'as très bien remarqué, tu le dis, ils me disaient qu'ils n'étaient pas inquiets, mais concrètement, je voyais bien dans leurs yeux que ce n'était pas le cas. D'où l'intérêt de parler en fait un peu des choses et de...
Ça doit être un moment
aussi parler des émotions,
compliqué pour eux. Et tu as des frères et sœurs?
Ouais, j'ai une petite sœur, un petit frère.
Ouais.
Et pour le coup, leur réaction a été vraiment différente pour les deux. Ma sœur a été dans le déni quasiment non-stop de la maladie. Elle vivait pas avec moi à ce moment-là, du coup, mais par exemple, j'ai été hospitalisée dans sa ville, elle est pas du tout venue me voir, ou elle m'a même pas appelée, envoyé des SMS, etc. Ça a été impossible pour elle d'accepter ça, je pense.
Ouais.
Et au contraire, mon frère a été aux petits soins, alors que le pauvre, il avait que 13 ans à ce moment-là. Il pouvait pas faire plus, quoi. Vraiment, ouais. Ça a été un amour et ça a été un vrai soutien. Et aujourd'hui, je lui dis vraiment régulièrement que en fait ça a été vraiment mon pilier pendant ce moment-là, mon pilier un peu imprévu.
Ça vous a rapproché
à fond. Ça nous a beaucoup rapprochés, parce que et en fait finalement c'est un lien qui nous manquait peut-être un peu, et ça nous a beaucoup rapprochés. Ça nous a fait beaucoup de bien d'être dans cette forcément beaucoup de mal aussi, c'est pas que du bien avec cette tout ça, mais on a une relation qui est bien plus solide qu'avant.
Mais j'imagine que ça a dû changer toute la dynamique familiale. Tout, complètement. Ce genre d'événement, ça change tout un fonctionnement familial, toute une dynamique
familiale. Tout est bouleversé, oui. Je suis l'aînée, mais je suis un troisième parent, en fait, dans la famille. C'est-à-dire que pour toute discussion, tout choix, on me concerte avant. Voilà, j'étais très responsable. C'est moi qui m'occupais, par exemple, des papiers de scolarité de ma sœur et tout. Voilà, c'était vraiment à fond. Et là, d'un coup, je me retrouve à ne même plus pouvoir prendre une petite cuillère pour manger. Donc tout a été complètement, tout a été chamboulé. Et mes parents aussi se sont retrouvés avec peut-être un pilier en moins ou quelque chose en moins. Enfin, tout a été déséquilibré. Et ça n'est pas revenu à la normale encore aujourd'hui, parce que forcément, ça change tout. Ça change les relations entre frères et sœurs, entre parents et enfants.
C'est le temps de vous réadapter, de vous réajuster à tout ça et de retrouver un nouvel équilibre. Mais bon, c'est tellement violent que j'imagine que ce temps-là de réadaptation est aussi long que ce que c'est violent. Enfin, je sais pas. Exactement. Si c'est très clair.
Oui, bien sûr. Oui, c'est très long. Et moi, j'y travaille tout. Enfin, voilà, je vois une psychologue une à deux fois par semaine et ça me fait un bien fou d'en discuter. Et je sais que j'ai des amis qui sont aussi sujets à des maladies où les parents vont dans des conférences de psychologues, etc. Moi, mes parents ne sont pas encore prêts à ça. je leur en parle régulièrement du fait que ce serait bien parce qu'ils ont vécu un choc aussi de leur côté.
Ouais, et mais puis être accompagnant, voilà. c'est pas une place évidente.
Non, accompagnant et parent, je pense que c'est vraiment pas évident pour eux non plus.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ouais. Mais tant que c'est pas leur décision, moi je j'insiste pas plus que ça. J'attends aussi que ça vienne d'eux, parce que moi j'ai attendu que ça vienne de moi pour aller consulter aussi.
À quel moment tu as commencé à ressentir le besoin de consulter ?
Au deuxième diagnostic.
Ouais.
Là je me suis dit ok, bon, surtout que la fibromyalgie c'est pareil, ça met des années à diagnostiquer, il y a souvent beaucoup de psychologique là-dedans, etc. Donc ouais, là je me suis dit ok, bon déjà une, c'était dur à gérer, deux, on va peut-être prendre un peu d'aide. Et en fait j'ai trouvé une super psychologue et on s'entend super bien et ça me fait un bien fou, vraiment. Et j'attends mon rendez-vous toutes les semaines avec impatience, alors que c'est, bon voilà, certains pourraient dire oh là je vais voir ma psy, moi je suis super contente d'aller la voir.
Tant mieux, de toute façon l'alliance avec le thérapeute c'est
hyper important,
c'est essentiel. Ouais. Donc c'est très bien que ça puisse te faire du bien.
Et comment tu gères la douleur ?
C'est pas évident. Dans les premiers temps, j'assumais la douleur. C'est-à-dire que j'avais mal, je le disais, puis j'allais me reposer s'il fallait que j'aille me reposer, etc. J'ai eu une période où ça allait mieux, où on avait trouvé un traitement qui correspondait un peu à ce qu'il fallait pour que je puisse vivre normalement. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai tué la douleur pour éviter de créer de l'inquiétude pour mes parents, pour mes proches, etc. Et à partir de ce moment-là, c'est compliqué de retourner sur un schéma, même si c'est une maladie chronique, de redire, ok, bah là, de nouveau, j'ai mal, de nouveau, il me faut telle ou telle chose, en fait, tel temps de repos ou tel médicament. Bah forcément, aujourd'hui, comme il y a eu une période de mieux, maintenant, c'est très difficile d'assumer cette douleur-là.
Ouais, de prendre ce temps quand on a besoin.
Mais ça, c'est toute la difficulté de la maladie chronique, en fait. Parce que ça fonctionne par crise. Et donc, quand on n'est pas en crise, ça va. Mais la crise, elle revient à tout moment. Elle peut même venir du matin pour le soir, etc. Donc, quand on a des proches qui sont avec nous au quotidien, pour suivre, déjà, nous, c'est pas évident. Mais alors, eux, c'est vraiment compliqué.
Est-ce que ça, tu ressens parfois de la culpabilité par rapport à tout ça ?
Oui, beaucoup.
Ouais.
Oui, j'ai pas envie de... J'ai vu vraiment de la souffrance dans leurs yeux, etc., par rapport à tout ça. Et même si moi, j'essaie vraiment de me déculpabiliser de tout ça, forcément... Ouais, j'ai pas envie de créer de la souffrance pour eux. Et d'ailleurs, ça a tout été l'enjeu d'avoir un amoureux, de savoir est-ce que j'accepte que quelqu'un dans ma vie vienne avec tout le bagage que j'ai moi aussi. Et en fait, ça se passera bien, donc ça va.
Ouais, c'est cette relation, elle date de combien de temps ?
Elle est très récente, ça fait quelques mois qu'on est ensemble, mais ça se passe vraiment bien. Et il est en pleine écoute avec ce qui se passe, et il est un vrai soutien. Et en fait, c'est un soutien monstrueux. Parce qu'en plus, comme c'est quelqu'un qui n'a pas vécu tout le diagnostic, toute la grosse difficulté, finalement, il n'y a pas le traumatisme de tout ça qui est là. Donc, c'est quelqu'un de neuf par rapport à la maladie et qui est un soutien juste immense pour moi. Donc, c'est chouette.
On voit l'importance de l'entourage quand même.
Toujours, hein, l'entourage, surtout dans ces moments-là qui sont... qui sont quand même très 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 intenses et qui sont instables du fait des crises et des moments d'accalmie et des crises. Est-ce que tu es un peu dans l'anticipation de la prochaine crise ou est-ce que tu arrives quand même dans les moments de bien à te dire que bon, pour le moment c'est bien ?
Je pense que j'ai réussi à dépasser ça. J'ai été rendre mon fauteuil il y a un mois par exemple. Je suis allée toute seule, je suis allée le rendre à la boutique de location en me disant ok, si vraiment ça revient, j'irai le chercher, mais je ne veux plus à la maison prête à être en crise en fait. Et ça fait partie des éléments, je pense, qui font que je dépasse un peu ça, mais c'est très neuf, je pense que...
Et en même temps, tout ça, c'est très neuf. Enfin,
ouais, c'est vrai.
Ça veut dire, sur l'échelle du temps, si on t'a appris ça il y a un an et demi, c'est tout récent, et en même temps, tu processes vite. Enfin, je trouve...
Je voulais vraiment pas être victime de la maladie. Et encore aujourd'hui, j'ai pas envie d'avoir ce statut-là. Là, je viens témoigner parce que j'ai envie que s'il y a d'autres personnes qui se retrouvent dans des cas de maladie, etc., puissent peut-être entendre une situation un peu similaire de comment ça change, en fait. Et c'est OK que ça change et c'est compliqué, mais voilà, c'est possible. Ça va tout bouleverser, mais c'est possible. Mais j'ai pas voulu faire en sorte que ce soit la chose majeure de ma vie. J'ai essayé tout de suite de faire autre chose, je me suis mise au dessin, j'ai tout de suite essayé de reprendre le cap de tout ça, quoi.
Et au niveau du regard justement que la société elle peut poser sur toi, de ce que tu nous dis, c'est un handicap qui peut être invisible entre guillemets aux yeux des autres, mais ton entourage amical, tout ça, comment est-ce que ça a été vécu, ou même de la part d'inconnus à qui tu en parles?
Les amis, ça a été compliqué parce que, en fait, les gens qui sont très proches de vous pendant les moments de crise, ils savent ce que vous vivez quand même. Ils le voient, ils l'entendent, etc. Mais les gens qui sont déjà un petit peu plus loin, sur le cercle d'après, ils ne voient pas ce qui se passe. Donc, ils ont beau essayer de s'inquiéter ou d'être gentils, en fait, ils ne connaissent pas la réalité vraiment de ce qui se passe. Et moi, je sais que pendant très longtemps, même si j'avais envie d'avoir des contacts avec mes amis, j'avais peur d'envoyer un « salut, tu vas bien ?» Parce que j'avais peur qu'on me demande la même chose de l'autre côté et que, en fait, moi, ça ne va pas. Donc, je ne voulais pas partir sur cette question-là, mais en même temps, elle allait arriver. Donc, ça m'a vraiment coupée de mes amitiés pendant un moment parce que je n'acceptais pas de dire que ça n'allait pas. J'avais pas envie d'inquiéter à distance, en fait. Et ça a été pareil pour mes grands-mères. Je suis très proche de ma grand-mère paternelle. Et j'osais plus envoyer de message. J'avais peur de dire que ça va pas ou ça va encore moins bien. Hein, ou, voilà. Donc ça m'a un peu coupée. Et c'est revenu derrière quand ça allait mieux. Mais...
Qu'est-ce qui te faisait peur dans le fait de les inquiéter? T'avais peur de quoi concrètement? Dans le fait qu'ils s'inquiètent pour toi?
Quand on voit pas la souffrance, on peut s'imaginer beaucoup de choses. J'avais pas envie d'être le créateur d'inquiétude, en fait. C'est surtout ça, je pense.
C'est oui, mais on en revient à la culpabilité dont on parlait tout à l'heure.
Et dans ta vie quotidienne, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses pour lesquelles tu te sens bloquée, ou au contraire, est-ce que tu essayes de faire des petits pas, des petites démarches pour essayer toujours d'aller au-delà? Tu dis que tu fais du dessin, et quand tu dis, en crise, j'arrivais même pas à prendre une petite cuillère en plastique, etc. J'imagine que c'est quand même un chemin parcouru qui est grand. Est-ce que ça te tient à cœur, toi, de continuer, tu vois, ces activités-là
Oui, ça me tient beaucoup à cœur. Et je pense que ça m'aide aussi beaucoup à voir le progrès au quotidien. Parce que encore aujourd'hui, j'arrive pas à faire une journée sans sieste, par exemple. Et c'est pas une petite sieste, hein. Je fais 3 heures de sieste. Et en ayant bien dormi la nuit, etc. Ça, c'est surtout symptôme de la fibromyalgie, mais c'est aussi de la polyarthrite, l'énorme fatigue chronique, en fait. Moi, j'ai l'impression de perdre la moitié de mes journées, quasiment. Mais par contre, de voir que j'arrive à faire un peu de progrès tous les jours, hein, qu'il y a un dessin de plus qui sort, que j'arrive à aller sur certains cours, etc. En fait, c'est hyper satisfaisant parce que je me dis, OK, je fais rien. Bah si, regarde, je fais des choses, en fait. Et c'est génial. C'est ça qui m'aide aussi à garder la pêche, quoi, pour la suite.
Et tes études, comment ça se passe? Est-ce que l'encadrement, l'université, je ne sais pas si tu as l'université, mais en tout cas, ça s'adapte aussi à la situation
ou... Plus ou moins, honnêtement. Je suis signalée comme étant handicapée à la fac, etc. Mais par exemple, j'ai été passer mes partiels fin décembre et les profs m'ont reçue d'une manière catastrophique. Enfin, voilà, j'avais un tiers-temps... Parce que maintenant, je peux pas... Enfin voilà, il me faut un tiers-temps clairement pour écrire, je suis trop lente sinon. Et voilà, on m'a accusée d'avoir modifié toutes les épreuves devant toute la classe parce que j'avais un tiers-temps, que... Voilà, on m'a dit, bon écoute, si tu peux la rendre avant parce que je vais pas rester jusqu'à 20h30. Enfin voilà, je me suis pris des réflexions comme ça alors que j'arrivais tout juste de vraiment d'une grosse crise et que je faisais l'effort de venir en partiel. Donc oui et non, disons qu'il y a des adaptations, mais c'est pas gagné encore, hein, c'est pas encore ça. Surtout quand l'handicap est invisible, c'est pas évident.
Oui, c'est toujours ce regard qui parfois rajoute à la difficulté déjà du quotidien.
Ouais. Parce qu'une fois de plus, je pense que les gens, ils savent pas, en fait. Et le fait d'être, d'ignorer, ils se rendent pas compte. On imagine toujours le handicap comme quelque chose de très fonctionnel au niveau organique. Alors non pas que ce soit pas le cas de ton côté quand tu es en crise, etc. Mais comme quelque chose, il faudrait être par exemple toujours en fauteuil roulant. Que ce soit quelque chose d'extrêmement visible. À partir du moment où c'est invisible, il n'y a plus rien. Mais en fait, c'est comme la santé mentale, j'ai envie de te dire. Et du coup, je suis désolée que tu aies eu à vivre ce genre d'expérience dans ton université.
Ça permet aussi de se préparer malheureusement à ce genre de choses aussi. Parce que moi, j'y suis allée très naïvement, la fleur au fusil. Et en fait, du coup, les autres épreuves, je les ai vécues complètement différemment. Mais ça arrive pour la fac, mais même au quotidien. Encore l'autre fois, j'étais dans le tram, j'étais assise, on m'a demandé de me lever parce qu'il y avait une vieille dame. Et j'ai dit, en fait, non, moi, je suis handicapée, je ne peux pas rester debout. Et il a fallu que j'aille montrer ma carte parce que les gens ne me croyaient pas dans le tram. Parce que je fais pas handicapée, enfin là en ce moment en tout cas, j'ai pas de béquille, j'ai pas de fauteuil. Waouh, j'ai envie de dire jusqu'à montrer la carte, quoi.
Ouais, c'est la légitimité d'avoir le droit d'être malade.
Et ce statut-là de personne en situation de handicap, c'est quand tu l'as eu, du coup j'imagine que tu as fait la démarche pour avoir ce statut-là.
Très longue démarche.
Est-ce que, c'est hyper long. C'est pas très facilité ce genre de démarche en général, mais du coup est-ce que c'est un statut avec lequel tu es, enfin comment tu l'as accueilli ce nouveau statut-là, parce que c'est un nouveau statut dans la société.
Exactement. C'est passé par plusieurs étapes. J'ai d'abord été reconnue en tant que travailleur handicapé. Déjà ça a été un premier, d'accord, donc toute ma vie je vais être estampillée travailleurs handicapés. Alors ça vient avec plein d'avantages, donc c'est chouette. Et en même temps, le mot handicapé, il est vraiment bizarre à voir et à s'approprier. Et le plus dur, je crois que c'est quand j'ai reçu mes cartes. J'ai une carte de stationnement et une carte de priorité, en gros. Et vraiment, de voir ma tête sur une carte handicapée, c'est là que ça a été vraiment le plus frappant. Honnêtement, au quotidien, les jours où ça va à peu près, j'essaye de ne pas la sortir et de paraître normale. Et la difficulté, c'est les jours où ça ne va pas trop, d'assumer vraiment ma carte et de passer devant des gens et de devoir demander. Là, j'ai été votée dimanche dernier. Je suis passée devant les gens. Je ne pouvais pas attendre la queue pour aller mettre mon enveloppe. Et on m'a regardée très bizarrement parce que j'étais habillée comme une jeune fille de 23 ans qui va voter. Enfin voilà, il n'y avait pas écrit handicapé dessus, quoi.
Oui, il y a vraiment ce besoin de mettre dans des cases. Hein.
Du coup, le fait de devoir assumer, de devoir prouver que, alors que franchement... Fin...
Ouais, c'est déjà, franchement, c'est déjà dur de s'assumer soi-même en tant qu'handicapé. Devoir le prouver tout le temps, c'est pas une mince affaire. Mais ça permet plein
J'imagine
de choses
que
aussi.
Ça t'apprend à t'affirmer un petit peu.
Oui, un peu. Honnêtement, c'est plus le fait de pouvoir avoir des excuses maintenant qui est bien. C'est un des côtés de la maladie, c'est que par moment, moi, je vais pas avoir envie de quelque chose. Je vais dire, écoutez, je suis fatiguée. Là, je sens, j'ai mes articulations qui chauffent. Je vais me coucher. Et en fait, ça, enfin, bon, voilà, on peut l'utiliser, pas forcément toujours.
C'est bien aussi de dire. Je pense qu'on l'a tous fait pour plein de choses dans la vie. Et franchement, cette situation...
C'est ma carte excuse maintenant.
Aussi, et c'est bien.
Pensez à toutes les mamans qui ont la carte excuse enfant.
Ouais, c'est ça.
On a tous ça, on se réinvente. Hein, bon,
bien sûr, exactement. Et c'est les opportunités que créent les situations parfois les plus difficiles. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu aimerais, toi, dire aux personnes qui peuvent être dans la même situation que toi, plus dans le sens où un diagnostic qui tombe de façon imprévue, assez violent, qui modifie beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire?
Peut-être que le plus important, c'est de trouver... sa temporalité à soi, le temps qu'on veut pour absorber le diagnostic. On ne l'absorbe jamais à 100%. Moi, encore la semaine dernière, j'étais très en colère de savoir que j'avais cette maladie à vie, tout, j'en avais marre, alors qu'au quotidien, j'essaye quand même de l'accepter plus. Donc ça varie, et c'est OK que ça varie. Et par rapport à ses proches, etc., je pense qu'il faut prendre le soutien qu'on peut avoir et il faut accepter que les proches découvrent aussi ça. Et que forcément, il y a des fois, ils vont être trop dans le contrôle et d'autres pas assez. Et je pense qu'il faut prendre l'aide là où elle est et qu'il faut être indulgent avec ses proches, même si nous-mêmes, on est dans une difficulté. Quand on a des personnes qui nous aiment autour de nous, en fait, ça nous aide quand même énormément. Et il ne faut pas la refuter, cette aide-là, en fait. Je parle aussi par rapport à mes amis, etc. Moi, je pense à elles, surtout par rapport à cette période-là. J'ai pas osé leur envoyer des messages. Et en fait, j'aurais dû, parce que leur soutien, il a été juste hyper précieux. Et voilà. Et c'est les diagnostics, c'est chacun vit le sien, chacun vit sa maladie, etc. Mais prenez le temps de l'absorber comme vous le voulez, prenez le temps de faire ce que vous sentez, en fait. Prenez le temps d'écouter votre corps et de vous suivre. Parce que finalement, c'est vous qui l'avez, la maladie, c'est pas vos proches. Donc parfois, il faut un peu s'affirmer là-dedans, mais voilà, prenez l'amour que vous avez autour de vous, franchement, ça aide énormément.
C'est un beau message.
L'amour, comme toujours.
Comme moteur. Et pour un message, tu vois, justement, pour les accompagnants, parce que parfois, c'est difficile d'être accompagnant aussi, hein. On peut être un peu perdu, entre se sentir un peu impuissant. Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de dire?
Je pense qu'on a besoin, en tant que personne malade ou handicapée, de se sentir avant tout humain, en fait. Et c'est ce qu'on oublie des fois, on nous infantilise beaucoup... On essaie de contrôler beaucoup de choses pour nous. Tout ce qu'on peut, même minime, contrôler de notre part à nous, c'est hyper important. Moi, je pense à mon grand-père qui a la maladie de Parkinson. Et je vois ma grand-mère, elle veut tout contrôler tout le temps. Et en fait, il y a des choses aussi... chaque petite chose qu'on peut contrôler, nous, il faut nous laisser le faire. Parce que c'est ce qui nous garde en vie, c'est ce qui nous garde humain, c'est ce qui garde notre statut.
La liberté.
Ouais, garder notre petite part de liberté. Mais en tout cas, vous faites quelque chose de très précieux pour nous, d'être là et de nous aider. Enfin, faut pas l'oublier, même si vous allez faire des erreurs, parce que tout le monde fait des erreurs, c'est aussi ça, être humain. C'est précieux, quoi. Merci d'être là, franchement. Merci de soutenir les personnes qui sont dans des situations compliquées, parce que vous faites beaucoup. C'est énorme. Même quand vous pensez pas faire énormément, en fait, vous faites beaucoup quand même.
Voilà. Merci beaucoup.
Merci
pour le témoignage. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
N'hésitez pas à vous abonner au podcast, le partager autour de vous et le noter sur toutes les plateformes d'écoute.
À bientôt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.